Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience de Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5 euros par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans publicité. Lien en description de l'épisode. Alors, bienvenue dans notre podcast Lifestyle, parce qu'on est en train de parler de choses intéressantes, finalement. Oui. On était sur l'eau chaude ou l'eau froide. Vous êtes plutôt quel team? N'hésitez pas à répondre
surtout,
dans le chat.
Ouais. Voilà, en fait, on est en train de préparer notre nouveau concept bientôt.
Nouveau podcast. On a fait, en fait, on parlait en off, c'est vrai qu'effectivement, on a fait beaucoup de podcasts dans notre carrière, beaucoup de podcasts qui se sont foirés, beaucoup de podcasts qui ont réussi. Mais on n'a pas
seul.
Mais pas le podcast qui a le magnum opus. On pensait vraiment faire un podcast de lifestyle.
Dis rien, on va juste arriver avec ça.
Ouais,
c'était quoi le titre? Je me souviens plus.
Life List.
Ouais,
Life List.
Voilà.
Life List.
On va faire
avec un fond bleu à la place. Voilà.
Ouais. Et on a choisi de vous parler de l'eau chaude, de faire des comparatifs de multiprises.
On s'est arrêté aussi sur les produits barbes.
Guillaume nous dit eau chaude globalement. Ouais. Quelle team? C'est une belle team. L'eau chaude, c'est bien pour les cheveux ou pas, Karim? Notre correspondant, du coup, pour tout ce qui concerne les soins capillaires.
Le mieux, ça reste quand même de l'eau tempérée quelque part. Tu vois, je veux dire, faut pas que ça agresse trop. Faut pas que ça agresse aussi ton cuir chevelu, tu vois. Parce que trop chaud, ça agresse ton cuir chevelu. Ça
pour la barbe, d'ailleurs, sachez que l'eau tempérée, c'est bien aussi. Parce que trop chaud, c'est pas bon du tout.
Mais globalement, on a pas mal de choses à vous dire dans la vie.
Oui,
c'est le chaud, c'est
on
bien.
Lave,
hein, c'est un
d'ailleurs,
bon
on peut même dire que globalement, on se lave beaucoup trop.
Et c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'on a un rythme.
Arrête-nous,
parce qu'avec Marvin, on te fait 2 heures.
Mais c'est vrai que moi, je suis à deux douches par jour en moyenne.
C'est pas bien.
Ouais.
C'est confortable, mais c'est pas bien pour toi.
En fait, tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, t'aimais Star Wars et maintenant, t'aimes plus, en fait. C'est parce que t'as fait 2 douches par jour et du coup, paf, tu sors ta 2e douche, Star Wars, c'est nul, normal.
Ouais, c'est comme les environnements aseptisés, mec.
Je me sèche et là, je suis en train de dire putain, Tarkovsky, c'est génial.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors, pas sûr que les fans de Tarkovsky se lavent beaucoup. Mais bon, c'est
un autre. Ah oui, il y a la
ligne. Il y a autre chose.
Il y a une barrière. Non, mais bon, je sors, j'adore David Lynch.
Voilà. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, tu me diras, c'est un peu pareil, ça.
Ouais, j'arrive pas à trouver de réalisateur propre, en fait.
Nolan ? Oui, encore, non.
Si vous avez des idées de réalisateurs propres, mettez-les dans le chat. Hein, mais
de réalisateurs que vous dites, par exemple, en société, et que vous passez pas pour un gros tricard.
Tout de suite, ça fait mec qui se lave un peu, tu vois, il a un short de pyjama violet. Sachez que le mien est noir, si vous voulez tout savoir. Voilà. Scorsese, pas sûr. Non, j'arrive pas à savoir.
Ah, c'est assez raide. Si, Wim Wenders.
Ah, Wim Wenders.
Là, Wim Wenders, tu sens la carte allemande, un peu poète.
Tu sens la bourgeoisie, quoi, surtout. C'est vrai que ça fait propre, quoi.
Bah ouais, tout de suite, tu fais. Voilà,
Baz Luhrmann, ça se lave beaucoup, je pense, tu vois.
Ouais.
Ça se lave trop.
Un peu trop.
Ça prend 10 douches par jour.
Ouais,
ça brille.
Ça passe 45 minutes dans la salle de bain pour préparer sa coiffure.
Ça met de la cire brillante, ça, tu vois, c'est dur.
Ça a des petits stickers colorés sur le miroir de la salle de bain.
Ouais, carrément.
Un petit peu, tu vois. Ouais,
c'est
non,
ça. Dans
ça,
Bruno Dumont, non, clairement pas. Là, Bruno Dumont,
au pire, je pense, non, là, t'es prof de français.
Non, non, mec.
T'es prof de français.
Tu te laves au camembert, là. T'es fou.
Alex Garland, là, tu te fais passer pour le petit.
Alex Garland, tu te frottes doucement, genre, pour pas te faire mal.
Toilette au gant, tu vois.
Toilette au gant, un peu. Tu sais, genre, je prends pas de risque, machin, tout ça. Ridley Scott, peut-être. Ridley Scott.
En ayant la nuance.
On connaît trop le personnage pour imaginer qu'il pue pas.
Non, mais tu te laves, mais tu. Ridley Scott, tu te laves en faisant, tu sais, des mouvements, genre, très précis. Genre, voilà. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça plutôt. Enfin, bref. On peut faire un podcast là-dessus aussi, si ça vous intéresse. Enfin, bref. On pourra faire une tier list des réalisateurs les plus propres, les plus sales.
Franchement. Tu sais que c'était, mec, qu'on fera des live Twitch comme ça, on fera ça.
Cet été, on a prévu de faire des live Twitch avec des tier list pétés, et clairement, ça va être dedans. Moi, je vous dis.
Ouais, je pense. Clairement, on peut faire ça. De toute façon, cet été, on va nourrir comme ça. C'est clair et net. On va vous nourrir, on sera encore pire que maintenant. C'est-à-dire qu'on sera même plus en pyjama, quoi.
Ah, bah non, clairement, cet été, on est en Marcel. Hein. Enfin, voilà. Luc, il remet son Marcel, Tony Soprano.
Ouais, mais les blancs, je les ai plus, putain. Je les ai plus.
Ah ouais, on va t'en acheter d'autres. Hein. Ouais, le Patreon va te prendre un lot, là. Putain, t'inquiète, hein, c'est bon. Hein.
Ah ouais, la Baldur's Gate era.
Ouais, la fameuse Baldur's Gate era où tu étais en slip de 8h à 23h sans bouger du canapé.
La meuf qui dit à 2h du mat', on va se coucher. Non, je suis encore sur les portes de Baldur.
Je comprends, je respecte en vrai.
En slip sur les portes de Baldur.
Oh, ça fait le titre d'une chanson qui est incroyable quand même. En slip. On the way, on the gate of Baldur.
On peut faire cette chanson. On peut faire cette chanson si vous voulez. Enfin, tout est possible, clairement.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
Alors, le coup de Rando, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film qu'on a traité, sur la vie surtout. Ne vous inquiétez pas, on a les conseils de lifestyle, comme vous l'avez vu. Hein. Ouais. Mettez Nightco, la Plougastel, des stars. Changez rien.
Exactement.
On va commencer avec Fucking Cinéphile qui nous dit entre Hill et Cronenberg. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, l'intro.
Oui, on n'a pas pensé à ça.
The Driver, en fait.
Oui, clairement.
La montre et tout.
L'évidence.
Nicolas Winningreffen revisite le mythe du vengeur protecteur mutique et batmanesque à la sauce électropop dans un polar noir plutôt entraînant et techniquement solide, un scorpion sur roue dont le moteur ronronne au rythme langoureux d'un cœur tendre et amoureux. Putain, elle est... Et il est okay. Incroyable, lui, à l'écriture. Moi, je l'aime, je l'aime.
Ouais,
Guillaume nous dit, alors, je peux comprendre pourquoi il ne peut pas être apprécié, probablement par son côté poseur et prétentieux à l'image de son géniteur, mais perso, je marche à fond, il arrive à transformer une histoire à grosse ficelle en un très beau film, je plonge dedans à chaque fois. Alizé nous dit, alors là, c'est un peu le couvrier des Durandos des meufs de shitlist, Alizé nous dit, d'ailleurs, à chaque revisionnage, ce film est d'une beauté fascinante, peut-être le plus abouti de ce gros melon de Nicolas Winningreffen, que j'aime beaucoup, nonobstant.
Voilà.
Marie-Clémentine derrière nous dit, évidemment, il ne mérite pas la shitlist. D'abord car Nicolas ne mérite jamais la shitlist par principe, j'aime son ego, j'aime ses défauts de parfois ne pas réussir à dépasser un concept, son esthétique versatile et son système de référence pop culture est classique. Le film s'est romantisé le dooming et la fatalité des codes synthwave et italo-disco et je fonds. Mention spéciale à l'amorce de la collaboration musicale entre Italian Do It Better et RFN, Johnny et Nicolas, joyau insupportable et délicieux de cette vie. Et là on va arriver sur les gens qui se sont dit putain c'est quand même pas terrible. Pick of the Gun dit, je n'ai jamais compris où il se situait dans la chronologie des Fast and Furious.
C'est pas bête.
Je pense que... Moi, c'est avant le 3, je pense.
Moi, pour moi, c'est avant le 5. Tu vois,
c'est entre les deux. Chance.
Ouais, c'est entre les deux.
Entre les deux.
L'arrivée de Jason Statham après, en fait, vraiment, je pense.
L'arrivée de The Rock, surtout.
J'ai un collègue tombé au combat avec moi.
Ah.
Heureusement, je ne suis pas seul. Un rider de Plougastel arrive dans la partie. Attention, un rider, le pilote. Christopher Bugonona nous dit, en plus il a dit avec son vrai nom, putain c'est fou ça.
Il assume.
Je dispose dans ma garde-robe du manteau scorpion, il ne mérite donc pas la shitlist.
Vendu.
Parce tu sais qu'il y a tellement de gens qui sont dans ce cas. Non mais...
C'est... Et dans le ska aussi.
Mais d'ailleurs dans le ska. Également.
Ouais. Jeu de mots.
Le beau mot.
On s'amuse. Putain c'est fou.
Putain.
Non, mais c'est. En fait, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui était assez drôle, c'est que sur Internet, c'était devenu un mème, c'était parti de 4chan. Et c'était en fait le truc du. Enfin, c'est devenu, en fait, ça a évolué parce que le truc, c'était en gros, au début, c'était le drive jacket.
Ouais.
On portait la veste, il y avait des gens qui se prenaient en photo, soit en second degré, soit en premier sérieux. Enfin, c'était n'importe quoi. Tout le monde foutait de la gueule, en fait, même du principe du driver, juste le mec qui est le stalker en fait,
ouais.
On en parlait un petit peu. Et après c'était le fait que Ryan Gosling c'est un peu fait partie un peu de ce personnage là où les gens un peu comme moi peut-être jeune qui s'identifiaient en fait, dire ah putain c'est un personnage mutique, il en chie mais il a des vraies valeurs, tu vois.
Ouais.
Et c'est le même du This is Literal Mimi en fait qui était assez incroyable aussi, ça mourir de rire en fait,
ouais,
même là
sûr, ouais.
Sortie de drive, c'est fou quoi. Donc voilà. Alors, les courriers du rando, c'est passé pour les avis du film. On va passer aux avis des auditeurs qui sont en ce moment... Alors, c'est pas vraiment des auditeurs, j'ai l'impression, parce que ce sont des gens, j'ai l'impression qu'ils écoutent pas l'émission.
Non.
Je pense qu'ils se foutent gratuitement de notre gueule.
Bien sûr.
On a un, par exemple,
on aime ça.
On a le grand gagnant,
ah oui,
le bon. Grand fils de pute de Waterpool Rolo, qui nous dit...
Bonsoir.
J'ai cru à un projet drôle sur analyse de films creux, un peu démago, second degré. Soit j'ai pas la blague, soit ce n'est pas le cas. Ça surfe sur la même vibe de contre-culture que Durandal. Attendez,
alors on est au cœur du mal.
Culture du Randall.
C'est
trop du cul.
Je sais pas.
dont le concept central du podcast est d'en s'en moquer, ce qui est plutôt triste. Alors on se moque jamais de Randall en fait. Hein.
Non, mais ils savent toujours pas.
Compris.
Non, ils savent toujours.
Non, mais bon, voilà. Tu vois. Mais je pense que ça vient de quelque part de chez Randall en fait. Quelque part. Je pense que c'est des gens qui ont écouté le merveilleux générique qui rend hommage à la plus belle phrase critique ever. Même le masque à la plume ne peut rivaliser face à ça. Et pour le coup, en fait, les gens sont arrivés en mode ah putain, c'est un terminal.
Ouais.
Voilà, bref, des blaireaux. Et le fait est que les reviews sont assez foireuses, ce qui aurait pu être divertissant si ça avait été l'intention. Alors je pense qu'en fait, vous avez peut-être des goûts de merde. Mais ça, c'est un truc aussi, c'est pareil, c'est à débattre. Aucun travail, que du ressenti, il y a un manque de connaissances qui amène à toutes les approximatisations ou fausses suppositions possibles.
Non, mais Water Prolo, viens nous expliquer en vrai.
Dis-nous.
En vrai.
Dis-nous lesquelles fausses suppositions.
Voilà.
Parce que tu peux pas me prendre face à ça, frère.
Non.
Moi, je t'ai dit des infos de fou.
Mais ouais.
Genre. C'était où on avait le plus soleil au monde, c'était à Los Angeles. Et non, faux, c'est en Vendée.
incroyable.
Ce twist.
Incroyable fun fact.
Et ça, c'est pas une supposition, ça c'est un fait. Tu vois. Donc tu peux pas combattre
fait, frère.
Ça. Tu peux pas combattre ça.
Qu'est-ce que tu vas faire, les sables de LOL, Los Angeles? Qui peut te battre?
Voilà, rien du
Personne.
Tout. Non, mais bon. Écoutez, voilà. le truc, si vous voulez, c'est que.
En fait, il y en a eu plusieurs comme ça.
J'ai envie de vous dire. Du coup, les gens qui nous prennent un peu au sérieux, qui nous aiment bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est toujours les pires personnes qui écrivent.
Bah, en fait, je vais te dire un truc, c'est que ça c'est toujours été vérifié, c'est que.
Non, mais je
sais bien. Personnellement, quand t'as un flot d'écoute, quand t'as un flot énorme d'écoute, t'as forcément dans le ratio des énormes enculés. Et ça rate pas chez nous parce que vous étiez. Plus de 2 millions à nous écouter au total.
Effectivement.
Quand même.
C'est vrai.
Donc, c'est aussi une preuve d'efficacité de notre part. Donc, on s'en prend plein la gueule.
Oui, mais en vrai, on aime bien.
On est content. On est content. Voilà. Mais effectivement, des fois, en fait, là, je comprenais pas en fait, la vague qu'on s'était tapée. Je me suis dit, ça vient d'où? Ça vient d'où, ça, en fait, ce délire?
Non,
et voilà, en fait. Mais du coup, effectivement, d'avoir des mecs qui nous rangent à la gueule, ça prouve encore une fois que quelque part, en fait, on est un des podcasts les plus écoutés de cinéma. Donc, merci
ça, on
à vous.
Le sait,
j'ai envie de vous
dire
merci à tous.
Voilà, bon.
Ah oui, Marie-Clémentine dit, parce que c'est vrai que j'ai lu ce commentaire à 5h30 du mat ce matin, donc c'est peut-être aussi
un peu
en grippe. Je peux vous témoigner que j'ai reçu un message à 6h du matin. Avec genre, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça?
Marie dit, sachez que Luc m'a saoulé dès 5h30 avec sa rage contre cet homme. Détruisez ce gars sur la place publique, la sérénité de mon yoga matinal a été gâchée par ce commentaire. Marc Pilate.
Non, mais écoutez, en fait, avant. La prochaine fois, c'est...
Ah oui,
c'est
écoutez, fermez vos gueules et puis
non,
voilà.
Ça évitera de dire des bêtises, voilà.
Alors, j'ai envie de dire, même essayez de le faire.
Voilà.
Alors, essayez juste de le faire. Voilà.
Non, mais
juste essayez de faire un podcast.
Parce qu'après, on va nous dire, oui, mais vous avez fait quoi pour le cinéma avant de parler des gens? Donc, voilà. Mais c'est d'ailleurs ce qu'ils disent pour la plupart. Mais...
Bah, on vous instruit, en fait.
Oui, voilà.
Tout simplement.
Effectivement.
On vous remet sur le droit chemin, qu'est-ce que je te dis?
Ah, c'est ça.
Voilà. Bah, vraiment. Moi, je te mets sur l'ange chemin. Je te mets des TikTok où je t'apprends des trucs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire?
Hey, c'est ça.
Il t'a vraiment vénère ce matin.
Ah ouais, non, j'étais fou. Mais c'est des fois, t'as des réveils qui sont comme ça, hein. Pas simple.
Ouais, au voilà. Réveil. Après, la journée réveil, était pas bien. Au réveil, pas bien.
Mais la journée était plutôt cool. Donc après, voilà. Ne vous inquiétez pas pour moi. La question de la semaine, cette semaine, c'était le film le plus perturbant selon vous, parce que Nicolas Winding Refn aime bien un peu choquer des fois. Mais on s'est dit quand même de parler de films qui nous troublent et nous choquent. Et j'ai envie de dire, je vais commencer avec Karim. Karim, quel est le film qui t'a, disons, le plus perturbé?
Il y en a plein, mais je vais mettre Funny Game de Michael Haneke, la version autrichienne de 97.
Allemande, ouais.
Parce que il a fait le cas d'école de refaire son propre film avec des codes américains, je sais pas, en 2011, un truc comme ça, je crois.
C'était dans les années 2000. C'était au moment de la montée en puissance de Naomi Watts. Donc je crois que c'était milieu des années 2000.
Ok, ouais, j'ai plus la date, mais c'est.
Ouais, je revérifie.
C'est pas bien. Enfin, j'ai trouvé ça moins bien, donc pas bien. Par contre, Funny Game de 97, ouais. Donc ouais, c'est un film que j'ai pas vu non plus un million de fois. Parce que c'est un film que je trouve. Qui est super oppressant et super intense dans l'oppression. Alors pour faire le pitch, c'est super simple en fait. Une jolie petite famille allemande avec papa, maman, fiston, chien vont dans leur résidence secondaire. Tout va bien jusqu'à ce que des voisins, avec des guillemets, viennent leur demander des œufs. Ça finira en jeu de torture psychologique, poussé à l'extrême. C'est un film, je trouve, qui est terrorisant en fait dans ce qui te montre, mais surtout dans ce qui te fait ressentir, parce qu'on est vraiment dans l'horreur possible. Réellement, je veux dire, quand t'habites en immeuble, tu installes un autre verrou. Le film utilise tous les codes de la torture psychologique, en tout cas pour toi, en fait. Hein, les silences sont pesants, les plans sont fixes, hein, les codes sont souvent brisés pour faire en sorte que les deux psychopathes du film, pour le résumer, ont pris un peu le quatrième mur, mais de manière arbitraire. Donc tu sais pas si c'est une vraie référence, un vrai code. Donc c'est un film qui vraiment veut te créer un sentiment de mal-être, un sentiment d'inconfort et un sentiment d'insécurité. Et c'est un film qui fonctionne vraiment ça là-dessus. C'est un film que j'ai vu, je pense, trop de fois dans ma vie parce que C'est un film que j'aime bien montrer, genre en mode, tu veux montrer une expérience.
Allez, regarde, on va passer un bon moment.
Mais non, mais tu vois, c'est quand t'arrives à un stade en mode, ouais, non, mais les films, c'est toujours pareil, machin, ce que tu y as. Ah ouais, un film, ça peut rien te faire ressentir. Je vais te montrer un film qui va te marquer, je pense, pendant une bonne semaine facilement. Je veux dire, c'est peut-être même, je pense, ça peut changer un petit peu quelque chose chez toi. Et je trouve, alors, le film est simplement efficace, hein. Je veux dire, c'est, en termes de réal, c'est très, je le trouve très brut, en fait, hein. Des caméras posées, des fois des jeux, voilà, mais. Surtout bah, en l'essence du film qui sont ces fameux funny games, hein, clairement des jeux de personnes qui vont torturer une famille. Et la psychologie a beaucoup de physique en fait, mais c'est pas spécialement gore, c'est pas spécialement... voilà, c'est vraiment un film, je pense, qui te prend épidermiquement, voire même dans la moelle épinière. Donc je pense que, après je le disais, j'ai un réel problème d'affection pour l'ultra-violence stylisée. Là, c'est même pas trop le cas, parce qu'elle est pas tant stylisée que ça en fait, hein. C'est pas très très
non,
beau,
elle
c'est très
brut. Et dégueulasse.
Ouais. C'est ça, ouais. Mais ce qui la rend vraiment tangible et réelle, quoi. Mais voilà, ça me fascine, et rien que l'idée de toute façon de vouloir faire... J'ai envie de rentrer dans la tête des réels qui se disent « je vais faire ça ». Il y a des gens qui font ça un peu évidemment juste pour choquer, tu vois. Mais là, c'est en mode, c'était quoi?
Ouais, je pense pas que ce soit ça. Ouais.
Non, c'est genre quoi? Est-ce que tu veux que je te fasse peur dans ta vie? Tu vois, t'installes un verrou, une alarme, c'est bien, machin, mais est-ce que ton voisin il veut des œufs? Voilà, tu vois, ça c'est la vraie question, tu vois, tu sais, qui fait. Voilà, donc dans les films qui m'ont marqué, et peut-être celui-là en premier, et c'est un film que je referai en fait, mais je préviendrai plus les gens parce que j'aimais bien troller un peu vers 25 ans, c'est n'importe quoi. Tu vas voir, c'est un truc sympa, un truc genre psychologique, et les gens sortent en mode, mais je peux dormir chez toi ce soir, s'il te plaît. Je trouvais ça un peu cool.
Je peux plus sortir, je peux plus.
Ouais, donc...
Ah, tu m'étonnes, mais ça. C'est un film incroyable, mais c'était. En fait, ça questionne par rapport à la violence, en fait, très clairement. Mais alors, c'est une supposition. Il me semble qu'il l'a dit quand même, c'est Michael Haneke, en fait, c'était par rapport au film de Tarantino, en fait, de justement, de l'ultra-violence. Et c'était un film qui questionnait ça, en fait. Questionnait ça. Est-ce que tu rigoleras comme un con si ça t'arrive chez toi, tu vois?
Ouais, mais
c'était un peu
bien.
Ça, le truc.
Ça marche très bien.
Il a toujours un petit peu vendu ça comme étant une espèce de réflexion sur la banalisation de la violence, quoi. Je veux dire, le fait d'en faire un truc à 100% cool, quoi. Ce qui est quand même un peu bête, quand on y pense, c'est vrai.
Mais je crois que justement, il avait interagi une interview là-dessus, comme quoi il y avait toute une partie des gens qui appréciaient le film pour ce qu'ils estimaient être des mauvaises raisons, en fait. Ils trouvaient cool le jeu de la torture, tu vois, et pas créer justement ce sentiment d'effroi de ce qui pourrait arriver dans ta vraie vie, tu vois. Bon, encore,
Comme
Driver, le film l'appelle.
C'est le problème d'une audience, en fait. C'est le problème d'une audience quand tu fais un film, quand tu fais quelque chose. Enfin, c'est un truc qui est libre à l'interprétation, c'est comment le public va le recevoir, et tu sais très bien qu'il y en a forcément quelques-uns qui vont comprendre le truc à l'envers, quoi. C'est naturel, quoi.
Ah, on va sur la curiosité morbide, hein, ça attirera forcément l'autre personne qui sont, moi bien je dirais excités dans le sens banal du terme, mais qui vont kiffer justement la curiosité morbide, l'excitation d'aller trouver la curiosité morbide pour savoir si tu tiens cette espèce de challenge dans mode non mais c'est ouf, tu t'imagines, t'arrives à regarder ça, tu vois. Là pour moi on est dans l'anti-ça justement, même si effectivement hein, le film te fait ressentir ça, vraiment il y a des moments c'est j'arrête. C'est un des rares films que je sais, alors moi non, mais j'ai vu des gens qui m'ont dit j'arrête, genre ça suffit.
Tu vois, c'est normal.
Film d'horreur, genre jumpscare, tout ça. Non, juste voilà, de l'effroi viscéral. Donc Funny Game. Et donc la première version en fait en 97, ça, hein, par Michael Haneke.
Marvin, de ton côté.
Ah, moi j'avais pensé à plusieurs trucs. Déjà à la base, pour être un peu dans la lignée de ce que Karim vient de citer, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'avais pensé vaguement en tant que espèce de questionnement peut-être sur une certaine violence un peu incontrôlée. J'avais pensé à Eden Lake qui a cette vibe un peu étrange quand même.
Ah ouais.
De pseudo-critique de la violence d'une certaine classe populaire anglaise ou ce qu'on veut. Bon, qui a un truc qui se perd un peu par moment, mais qui est quand même parfois un petit peu perturbant. Voilà, c'est trois plans que je n'oublierai pas.
Mais
le truc le plus gênant et perturbant, je pense que c'est Splice. Je ne sais plus qui a réalisé ce truc. Mais
c'est le mec qui avait fait Cube, il me semble, non?
Je ne sais plus. Oui, je
possible,
crois.
Hein.
Effectivement, Vincenzo Natali, du coup. Mais Splice, parce qu'en fait, c'est le seul film grand public qui mélange à la fois relations incestueuses,
oui, je valide.
viol bilatéral. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se violent, puis finalement se font violer par les gens qu'ils ont violés, et zoophilie, en fait. On a à peu près tout dans le même film pendant 1h40, comme ça. Et c'était très gênant. C'était très gênant, très perturbant, et beaucoup trop au degré pour que ce soit un tantinet jouissif ou ce que tu veux. C'était vraiment, vraiment, vraiment...
Les Italiens, dans leur histoire, par rapport à ça, c'est culturel, quoi.
Oui, non, mais je veux dire, là on parle quand même d'un film qui avait une très solide campagne de promo. Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, on n'était pas sur un truc...
Oui, bien sûr.
Voilà, je voulais dire, c'est pas salaud, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose.
Ouais, donc c'est salaud chez les extraterrestres.
Ouais, voilà, je sais plus. Mais en tout cas,
c'est vraiment... vous mettez E.T. de Spielberg et salaud de Pasolini, et vous avez...
Ah ouais, voilà, E.T. et la zoophilie, c'est Splice. Donc je sais pas. Mais c'est un film qui m'a toujours vraiment interrogé. Tu vois, sur les grandes limites de la gratuité cinématographique. Parce que ça n'a aucun sens, tu vois, je veux dire. Là, vraiment, on est dans l'absolue volonté de choquer pour choquer. En utilisant tous les traumas possibles, tu vois, et en les montrant de manière extrêmement, extrêmement crue, tout. Enfin, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un film stupide, Splice. Vraiment,
à 1000%. Con comme ses pieds.
Voilà. Con comme ses pieds, mais qui veut juste choquer bêtement, tu vois, en faisant les trucs les plus dégueulasses possibles. Donc, voilà. Encore un très bon choix de carrière d'Adrien Brody qui les multiplie. voilà.
Allez-y dans le chat, donnez votre film le plus perturbant le temps que moi de mon côté.
C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'Ange Sanguine comme étant un truc horrible et dégueulasse, je l'ai jamais vu.
Attends. Pas vu.
Ouais, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler.
Oui, j'ai vu l'affiche. Ouais. Ok. Ah, ça m'a l'air d'être un peu le. C'est arrivé près de chez vous les années 2020, ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Un peu dans l'idée.
Ok.
Regardez ça. Pour moi, le film le plus perturbant, c'est le film le plus terrifiant selon Stanley Kubrick. Enfin, du coup, ça a été vendu comme ça. Waouh. C'est un film qui a pas du tout eu de succès. C'est un film qui est un peu confidentiel. Donc, et c'est un film qui est très chiant à trouver d'ailleurs aussi. C'est L'homme qui voulait savoir, qui est un film franco-hollandais de Georges Sulzier, sorti en 88. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui cherche désespérément sa femme qui a disparu subitement sur une aire d'autoroute alors qu'il partait en vacances. Et quelques années plus tard, en fait, le mec qui est toujours à la recherche de sa femme, de son épouse, en fait, est dans un état devenu déplorable. Quoi. Il est complètement obsédé par cette histoire. En fait, il reçoit la carte postale d'un homme qui lui demande de le rejoindre dans un café à Nîmes. Et pour lui dire, en fait, il va lui promettre de lui dire ce qui est arrivé à sa femme. Et du coup... C'est l'histoire, en fait, d'un psychopathe qui va jouer encore une fois avec sa proie. C'est absolument noir, c'est déprimant. Ça te fait vraiment ressentir, en plus, ce que c'est d'être dans l'inconnu et de ne pas savoir ce qu'il y a une personne vraiment chère de ton entourage. Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait. Et c'est vraiment poussé à la folie, en fait, ce concept-là. Et ça montre aussi... c'est un peu Mindhunter avant l'heure, parce que tu vois aussi le mec qui fait ses crimes. Et il essaye de, en fait, te l'expliquer sans trop en plus appuyer. C'est assez subtil. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il fait ça, en fait? Parce que il y a aussi ce côté de la bourgeoisie qui domine la classe, finalement, de prolo, quoi. Donc, c'est vraiment un super, super film. C'est terrifiant. Tu finis le film, c'est une fin effroyable, quoi. C'est une des pires fins que j'ai vues de ma vie. Enfin, dans le bon sens du terme. Mais c'est vraiment le truc, c'est effroyable. T'es là, t'es bon, moi je vais crever, quoi. Allons-y, la vie, mourons tous ensemble, mais avec la joie.
En parlant de pire fin, effectivement, Soldat Bleu, c'est quelque chose.
Ah oui, Soldat Bleu. Soldat Bleu.
Vous l'avez jamais vu.
Soldat Bleu, c'est incroyable, parce que c'est un film d'aventure. T'es là. Ouais,
c'est un néo-western qui passe d'un statut de quasi pseudo-comédie romantique, tu sais, enfin, je veux dire, un film d'aventure à. Un massacre d'Américains natifs sans aucun filtre, c'est terrifiant. Voilà. Mais bon, ça fonctionne. Enfin, je pense qu'on est totalement au cœur de les faire chercher, quoi.
Ah, mais clairement. Mm-hmm. Et mais je l'ai découvert grâce à vous, du coup, parce que je l'avais regardé avant, justement, que vous diffusiez l'épisode de Flash Forward. C'est vachement... C'est lourd, hein. Putain. Au début, ouais, je me disais, putain, ça prend du temps. Mm-hmm. Ça prend son temps. Ouais. Puis t'arrives à ce moment-là...
Le dernier quart d'heure, mon Dieu.
Oui. Ah ouais, c'est horrible. Oui. Vas-y Karim, tu voulais dire quelque chose.
Alors je vais faire mention honorable sur les films découverts grâce aux copains du podcast. J'ai voulu qu'il y ait aussi Mother d'Aren Aronofsky, qui est un film qui a laissé une empreinte chez moi. En vrai, le dernier segment du film, le bébé, tout ça, machin, ça reste une des expériences, les physiquement.
Ah oui,
vous savez que Mother d'Aronofsky, c'est un des films, je pense qu'il est dans mon top 3 des films que je déteste le plus au monde.
Mais tu me l'avais calé de toute façon, mec.
Ouais, vous l'avez dit que Aronofsky, c'est genre. À cause de ce film, c'est un mec que j'ai un problème avec lui personnellement. C'est-à-dire que si un jour je le croise, on se bat. Tu vois.
Mais grave, mais je viens t'aider, mec. Je viens t'aider. Pour avoir fait ça, je viens t'aider, mec.
Ouais.
C'est dans un ascenseur, tu lui éclates la gueule.
Et c'est ma faute en plus, oui, parce que je vous l'avais infligé du coup dans mes pires films.
Ouais. Donc tu m'as un peu marqué au fer rouge, tu vois. C'est moins que Game, mais. Vraiment, tu vois, c'est
par rapport à la manière par rapport à la manière dont il a vendu le film et dont il a voulu, tu sais, en se la racontant derrière, en faisant le Edge Lord à fond là. Vraiment, je pense que si je le croise, on se bat, quoi. Il y a pas de, il y aura pas de parole, quoi. Tu vois, je vais te le faire comme Ryan Gosling, quoi. Je lui dis rien.
Je prends.
Je lui mets un coup de marteau direct. C'est fini.
Alors Ryan Gosling, mon pote, à The Driver.
Ouais, direct.
Alors donc il y a Marie Clémentine qui dit la grande bouffe, ouais, effectivement la grande.
Ah oui, la grande bouffe.
C'est incroyable comme film. C'est hardcore.
Ouais.
C'est hardcore. C'est juste le concept, c'est des mecs qui vont bouffer jusqu'à en mourir.
Exactement. Excellent concept. D'ailleurs.
Donc il y avait eu Il y a vu Orange Sanguine. Toriko nous dit The Sadness.
Oh, alors, alors non, je trouve pas que ce soit de la merde.
Ah, je trouve que c'est de la grosse
merde. Non, non, je trouve pas que ce soit de la merde.
C'est toujours plus tard,
non, esthétiquement, c'est un film qui est assez réussi. Par contre, il est absolument pas aussi choquant qu'on a voulu nous le faire croire, quoi. Voilà.
Alors, il y a quand même une scène, la scène du début, quand même, qui est un peu. Enfin, la première invasion quand l'autre rentre dans sa maison. Ce qui est pas mal.
Non, il y a des trucs pas mal dans le film. Moi, je trouve le film pas mal, mais après. Bon, il y a eu une espèce de hype étrange ou d'hallucination collective autour du fait que ce soit terrifiant et dégueulasse. Bon, je pense que c'est beaucoup trop esthétisé pour être dégueulasse, quoi, pour le coup.
Ouais, il y avait Zodiac de Toto. Effectivement, Zodiac
de Fincher, ouais. Oui, je ne vais pas devenir trop...
En fait, c'est le fait, c'est la scène... Si, la scène de la cave.
Oui,
la
scène
c'est
la cave,
vrai. Ah oui, c'est vrai.
Non, il y a
une scène de la cave extrêmement super tension là-dessus. Hein, c'est
très incroyable.
Ouais. Ouais, il y a schizophrénie aussi de Angst qui est assez fou.
Oui, bien sûr.
Et ils disent l'échelle de Jacob. J'en ai déjà parlé. J'adore l'échelle de Jacob, mais c'est pas le film le plus perturbant.
Ah, je suis pas sûr.
Ça marche bien. Et on avait, surtout ce Mother et Angst, ouais, effectivement.
Ouais, voilà,
on a fait le tour des films les plus perturbants. Bah, effectivement, après, il y avait toute la pelletée aussi de Gaspard Noé et tout ça. Enfin,
oui, alors ça, après, c'est juste nul. Hein.
Voilà.
Oh, ouais, c'est
j'adore.
Enfin, ça. Non, mais ça.
Ah non. Tusk, c'est alors, vrai qu'il y a Ace qui nous cite Tusk.
La fin de Tusk. La fin de Tusk.
J'aime
la
beaucoup,
fin de Tusk est incroyable.
Pour le coup.
Tusk, c'est fou.
Voilà. Je tente de le montrer à quelqu'un à la maison. Là.
Je vous dis, Justin Lee est dedans.
On est en cours de négociation.
Alors, on passe aux recommandations culturelles et je crois qu'on s'était mis tous d'accord qu'on était un peu charrette.
Ouais,
à part Karim.
Ouais, Karim, il a quelque chose.
Karim, qu'est-ce que tu nous proposes?
Karim, il vous propose un de ses passe-temps en ce moment, c'est Helldiver 2. Sorti donc sur plusieurs plateformes, et je crois PlayStation 5, enfin PS5 et PC aussi, fait par Arrowhead Studio, que je connaissais déjà parce qu'ils sont très forts en multi, bon, pour Gauntlet, mais surtout pour Magica, où j'ai passé des heures à jouer à Magica avec des copains, à jouer des petits mages encapuchonnés et à faire de la magie combinée, faire des combos de magie, tout faire péter. Là on est sur Helldiver 2, qui est un changement radical sur le premier Helldiver, donc c'est vraiment du TPS shoot vraiment fait pour le multi. Alors on est clairement sur un jeu qui se inspiration Starship Troopers, encore plus drôle en vrai, hein, vous allez jouer des Helldivers qui sont les super soldats qui vont répandre la super démocratie du pouvoir de la super terre avec des super copains et des super guns contre des super mobs. C'est super drôle et le jeu est vraiment fait comme si pour le multi, donc à jouer en escouade, des missions assez simples, il n'y a rien de très compliqué,
ouais, des objectifs à comprendre. Ouais, mais c'est... Faut se coordonner, quoi.
En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, y a rien qui est difficile. Enfin, si, c'est difficile, mais en fait, les objectifs sont simples, mais c'est complexe d'y arriver. La coordination est clé. Vraiment, il y a un système de gameplay qui est vraiment bien fait parce que, en fonction de ce que tu vas prendre, tu vas vraiment dépendre de tes partenaires. Le système de respawn, c'est pareil. Et, oh, t'as tout ça, tous les objectifs. En plus, t'as une espèce de joie de mini-game, en fait, où tu dois bien te coordonner à tourner des trucs. Et il y a une dynamique quand même super drôle. Hein, c'est qu'ils ont vraiment repris la dynamique du Konami Code, hein, des codes dans tous les sens, à coups de touche, ça en devient ridicule, où t'as des trucs où t'as genre 15-20 inputs.
Des combinaisons de touches, ouais, qui est fou.
Voilà,
ouais.
C'est super drôle, en fait, parce que tu passes ton temps, ce jeu, en fait, alors, il est très bien fait, en vrai, graphiquement, il est très très bien, il tourne très très bien, il est très fluide. Alors, en termes de gameplay, il y a tout, le système, et bien, tu peux payer, hein, clairement, le jeu est pas cher à la base, mais il y a une espèce quand même de système de passe avec des super crédits, tu payes en argent réel, mais le jeu est généreux, naturellement, tu peux juste, tu joues. Tu farmes, tu pecs, tu gagnes des trucs. Et vraiment,
tu peux récupérer
un milliard
de payants, en fait.
À terme, en plus, ils ont un système qui est assez dynamique sur le jeu, c'est-à-dire que t'as une espèce de faction qui se bat, toi t'as des compteurs en réel, donc c'est assez cool d'avoir un sentiment de faire partie des Helldivers. Mais vraiment, ça génère des fun en partie qui sont vraiment très drôles, en fait, parce que déjà, c'est du full coopératif, il n'y a pas de PVP, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé, ou vous n'en faites pas.
Ouais, il y a du friendly fire, hein, malheureusement.
Mais c'est génial, en vrai, parce que tu sais, c'est un truc à même entre potes, en fait, je veux dire, c'est. Temps à te marrer, t'y arrives toujours en vrai, enfin des fois tu perds, mais t'y arrives tout le temps à l'arrache, tout est fait pour buddier le truc et faire n'importe quoi, pour créer de l'épicerie, parce que le jeu est débile, hein,
oui, bien sûr.
T'envoies des trucs, des frappes, t'envoies rapidement des frappes nucléaires, en fait, hein, je veux dire, c'est, tu finis avec des drones partout, mais voilà, mais c'est vraiment très très drôle, le jeu se prend très au sérieux dans la manière de jouer, de tirer sur
dans la connerie, ouais.
Et dans la connerie, c'est vraiment il se prend pas au sérieux, donc Helldiver 2, c'est pas trop ma came à la base, mais ouais, gros kiff. Alors, c'est pas le jeu sur lequel je suis le plus actif. Je joue souvent avec les potes et c'est un jeu vraiment, j'y vois que l'intérêt d'y jouer avec les potes. De toute façon, il n'y a pas de campagne solo. Hein, je veux dire, c'est si tu joues pas, tu joues dans des groupes random, tu peux faire ta vie. En vrai, pour l'instant, la commu, elle est cool, elle casse pas les couilles. Tu peux intégrer des groupes quand tu joues tout seul. Son micro, ça utilise Emoji, ça communique. Donc, c'est cool. Et c'est crossplay avec PC sûr, donc ça permet de récupérer plein de potes. Les gens, c'est pas très cher.
Potes, hein.
Ouais, je crois que c'est 30 balles à peu
40
près.
40 euros à peu
ouais,
près.
Ouais, c'est ça, 30-40 balles. Donc c'est cool, vous pouvez y aller. Hein, si vous voulez du multi avec les copains, c'est vraiment cool et c'est quali. Hein, c'est vraiment quali.
Ouais, on passe de bon moment, mais faut, en fait, tu peux jouer en solo queue, donc ça veut dire de rejoindre des parties, des instances qui sont déjà faites. Mais c'est vrai que la touche vraiment où ça augmente l'expérience, c'est vraiment de jouer avec des potes.
Non, mais je pense que bientôt on pourra.
Oui, on pourra en faire.
On pourra faire ça. Ouais, on pourra faire ça ensemble. Ouais. Ça sera mieux.
Ouais, carrément.
Oui, ça pourrait être marrant, ça, pour
ouais,
le coup.
Ouais,
voilà, de dire les choses, mais
de
s'engueuler.
De dire les
avec
choses.
Grand cœur.
On s'est dit les choses.
Oui.
Voilà. À la mi-temps, on s'est dit les choses et ça a tout changé.
Non, moi, je veux la bromance. Ça va finir en bromance. De synchroniser.
Pourquoi pas, une bromance fasciste.
À coup de nuke dans la gueule, bien sûr.
Oui, on pourrait être de mauvais goût de manière légitime parce qu'on sera RP. On s'en bat les couilles. Il faut qu'on fasse ça.
Je vois.
Mais effectivement, on peut faire ça, non, clairement, mais c'est un programme à faire, ça. Effectivement, on nous parle dans le chat du point Shogun. Alors, le point Shogun, nous sommes au 9e épisode. Enfin, le
10e épisode. On n'a pas, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, donc après, on va peut-être en parler un peu plus tard.
Voilà. Bah non, on va en parler, sûrement.
On va en parler.
Ça va être un épisode bonus. Hein.
Ça va être un épisode bonus, on reviendra dessus, et puis voilà. Pour l'instant,
c'est un épisode bonus, bien sûr.
Pas encore terminé.
En exclusivité pour nos donateurs Patreon, bien entendu. Donc on reviendra là-dessus. Après, non, c'est vrai qu'en reco, je suis charrette aussi. En fait,
ouais.
À part
Marvin,
vous dire,
il a une
à part vous dire pour...
Ah oui.
Ah. Ah oui.
Ah oui. Ah oui. Ah oui.
La Marvin Mobile.
Ah oui, voilà. Alors effectivement, parce que moi, comme vous l'avez compris, moi je suis là pour vous aider en fait. Dans votre, c'est là où on arrive encore sur la partie lifestyle. C'est-à-dire que moi, je peux vous aider dans votre parcours de driver de Plougastel en fait, clairement. C'est pas une veste ou quoi que ce soit. Non, non. Sachez que dans le film qu'on a vu ce soir, il y a une des voitures du film. Eh bien,
qui voulait.
Pas une blague, je suis en capacité de vous la vendre. Voilà. Elle est actuellement à vendre. Donc, contactez-moi. Voilà, voilà. Vous pouvez rouler dans une des voitures du film.
Voilà. Soyez.
Je, Ryan clairement, Gosling. Vous pouvez être Ryan Gosling. Je peux vous donner
alors,
ça. Je peux vous offrir ça. Enfin, pas vous l'offrir, hein, parce que j'ai besoin d'argent. Mais voilà.
Indéniable. Mais le truc, c'est que, est-ce que t'as un autoradio qui peut lire le MP3 ?
Alors, figure-toi que oui. Elle avait sur cette génération-là, je pouvais mettre une clé USB sur l'autoradio. Effectivement.
Donc tu peux mettre Night Call, fenêtre ouverte.
Je peux faire ça.
Mettre tes petits gants.
Je peux faire ça.
Petit cure-dent.
Je ne l'ai pas fait, mais
voilà,
je peux.
Voilà, et rouler.
Voilà.
Ah, ouais, c'est possible.
C'est possible.
Vivez le drive dream.
Vivez le dream. Vous êtes à 1 DM de vivre le rêve.
Voilà. Voilà. Un DM et un beau chèque. Hein.
Mais alors, un DM. Oui, un DM et un peu d'argent quand même. Mais vous n'êtes pas si loin que ça.
Mais franchement, indéniable. Très, très belle voiture.
Voilà.
Très belle voiture.
Voilà, écoutez-les. Hein,
super
écoutez-les,
état.
Hein, ils connaissent. Donc
nous en bagnole on s'y connaît.
Donc vous êtes
spécialiste de l'auto.
Spécialiste. Hein.
Voilà.
Ah, spécialiste de l'auto, bien entendu. Qu'est-ce que tu crois?
Moi j'ai pas le permis.
Ça fait 2 ans que j'ai pas conduit de bagnole. Voilà, des vrais spécialistes de l'auto.
Bon, en vrai, maniez-vous parce qu'il faut vraiment qu'elle parte. Hein. S'il vous plaît, déconnez pas.
Parce qu'après, c'est l'entretien et tout, c'est un peu emmerdant.
Ouais, disons que c'est pas le même prix, quoi.
Je pense que la concession derrière, au bout d'un moment, de dire tu nous casses le véhicule de merde, on va la foutre à la casse, tu vas payer les frais de casse.
Déconnez pas.
Mais bref, voilà, la full expérience.
La full expérience,
vos portes.
T'as un DM de vous.
C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, on a pas de blé. Mais tu peux m'en donner, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copier raté.